C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Nous vous en parlons souvent dans C'est pas du vent, les espèces animales disparaissent à une vitesse vertigineuse sur tous les continents. Destruction de leur milieu naturel, pollution, braconnage, les causes sont multiples et la mobilisation est insuffisante. Pourtant, ces espèces font partie de notre écosystème. Elles nous rendent des services que nous ne saurons pas reproduire avec la même efficacité, comme la lutte contre les rongeurs ou la pollinisation des arbres qui nous permet d'avoir des fruits et des fleurs. Depuis 1948, l'Union internationale pour la conservation de la nature se bat pour les protéger. Son réseau est devenu énorme. 850 ONG, 10 000 scientifiques de plus de 181 pays. Tout le monde s'est donné rendez-vous à Hawaï pendant 10 jours pour le 84e congrès de l'organisation qui s'est terminé aujourd'hui. Pierre Lefebvre était sur place.
C'est pas du vent sur RFI.
Aloha and welcome.
Aloha et bienvenue chez nous dans notre île.
We hope that together, as more than 9,000,
nous espérons qu'ensemble, avec plus de 1000 représentants et plus de 190 communautés et pays venus du monde entier, nous pourrons mettre à profit les 10 prochains jours de ce congrès mondial pour échanger ensemble et construire un partenariat durable pour mieux protéger ce monde que nous partageons.
Organisé tous les 4 ans, le Congrès mondial de la nature de l'UICN rassemble plusieurs milliers de leaders et décisionnaires issus de gouvernements, de la société civile, des peuples autochtones, du monde des affaires et du milieu universitaire. Ce sont 10 jours de débats et de négociations pour définir la feuille de route des 4 prochaines années de l'UICN. C'est Inger Andersen, sa directrice générale, qui en détaille les grandes thématiques.
Certaines traitent de l'acidification des océans, de plastique, de conservation, d'air protégé. Certaines traitent des espèces liées aux océans, comme les requins, et ainsi de suite. C'est une des thématiques. Un autre ensemble de résolutions traite d'agriculture. L'agriculture et les changements d'utilisation des terres sont la première cause de disparition des espèces. Environ 80% des espèces terrestres disparaissent en raison de la façon dont nous produisons notre alimentation et de la façon dont nous gérons nos terres. Comment allons-nous préserver les écosystèmes qui nous font vivre sans perdre notre production alimentaire ? Ce n'est pas sans espoir. Le changement climatique et la façon dont la nature peut jouer un rôle pour préserver notre capacité à nous adapter et à atténuer le changement climatique, c'est le sujet. Et nous sommes ceux qui allons faire que cela soit possible. Ce sont ces types de thématiques qui seront discutées dans les motions. De même que certains sujets plus controversés. L'un d'eux est de définir plus clairement ce que devrait être la compensation lorsqu'on porte atteinte à un écosystème. Je détruis quelque chose ici et je compense en protégeant quelque chose ailleurs. Nous voulons être certains que chacun comprenne bien qu'aucun écosystème n'est équivalent à un autre et compenser un écosystème perdu par un autre doit être la toute dernière option. Une autre thématique traite du no-go, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'activité économique à l'intérieur d'espaces protégés ou éventuellement de définir ce qui peut être fait ou non à l'intérieur des espaces protégés. C'est un sujet controversé dans certains pays. Mais nous savons que lorsqu'une décision est prise par les assemblées de l'IUCN, il faut savoir qu'elle est prise par deux assemblées, celle des gouvernements et celle des ONG. Il faut avoir la majorité dans les deux assemblées. Et parfois, oui, il faut faire des compromis. Et cependant, cela veut dire que lorsque nous prenons une décision, elle influence les législations internationales, elle influence les politiques de conservation, elle influence les conventions et les décisions internationales.
C'est aussi au Congrès mondial que la nouvelle liste rouge des espèces en danger a été publiée. Elle dresse un constat alarmant. Près d'un tiers des quelques 83 000 espèces animales et végétales évaluées sont menacées. Et un tiers sont considérées comme vulnérables, en danger ou en danger critique. 4 des 6 espèces de grands singes, en particulier le gorille oriental, le plus grand primate existant, qui vit notamment en République démocratique du Congo, sont maintenant en danger critique, tout proche donc de l'extinction. Le bilan est sombre pour l'Afrique, comme le détaille Carlo Rondini, qui a coordonné l'évaluation pour les mammifères.
La situation en Afrique n'est globalement pas bonne à cause de l'augmentation des pressions sur les écosystèmes et l'accroissement des populations. Les actions de conservation font aussi défaut dans certaines parties de l'Afrique. Par ailleurs, il y a clairement des différences régionales. En Afrique de l'Ouest, la situation est particulièrement mauvaise et c'est également le cas dans d'autres parties de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, en Ouganda, on s'attend à ce que la population augmente rapidement. Le pays devrait devenir le 10e pays le plus peuplé en Afrique et cela va générer de plus en plus de problèmes pour la vie sauvage. Dans les aires protégées, il y a eu un déclin des mammifères ces dernières décennies et de la même façon, ce déclin n'est pas le même partout. Il est moins important dans le sud de l'Afrique qu'à l'ouest et à l'est. Le déclin des mammifères concerne tout autant les espèces protégées que non protégées.
D'année en année, cette liste rouge s'allonge et la liste des animaux en voie d'extinction s'allonge également. Est-ce que c'est un échec des politiques de conservation ?
La réponse est oui, bien sûr. Il y a probablement plusieurs raisons qui expliquent cet échec. Les efforts de conservation ont augmenté ces dernières années et c'est une tendance qui se confirme. Mais dans le même temps, les contraintes qui pèsent sur la vie sauvage ont augmenté bien plus encore que les actions de conservation. Il y a heureusement des perspectives politiques qui pourraient changer cette trajectoire de diminution des espèces et de la dégradation de la biodiversité. Et cela dépend des changements de nos comportements et de nos modes de vie. Il y a des scénarios qui proposent de réduire notre consommation de viande. Cela ne veut pas dire devenir végétarien, mais simplement de réduire notre consommation. Rien qu'avec ça, on pourrait faire beaucoup plus qu'avec les politiques actuelles de conservation. Nous réduirions ainsi le nombre d'habitats naturels perdus parce qu'ils ont été convertis en culture destinée au bétail. On pourrait ainsi réduire la perte de biodiversité plus que par n'importe quel autre moyen.
Alors on a l'habitude de pointer du doigt parmi les causes le changement climatique, la fragmentation de l'habitat, et il semblerait que le trafic illégal soit de très loin le facteur le plus important de disparition de ces espèces.
Oui, la chasse illégale et le trafic illégal des espèces en Afrique sont une des causes principales du déclin des espèces. La viande n'est pas forcément destinée à du commerce local, mais aussi à du commerce régional. Enfin, l'Afrique connaît également un nouvel essor du braconnage, pas seulement l'Afrique subsaharienne, mais aussi dans le sud. C'est une tendance qu'il est difficile de changer.
Le braconnage et le commerce d'espèces sauvages protégées est la 4e plus grande activité criminelle internationale après le trafic des armes, de drogue et d'êtres humains. Ce commerce illégal représente 20 milliards de dollars par an, dont 3 milliards pour l'ivoire. C'est un commerce qui croît toujours, comme l'explique John Scanlon, secrétaire général de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction.
Donc il y a eu ces dernières années une forte augmentation du trafic d'espèces sauvages parce que les organisations criminelles internationales ont ciblé les animaux sauvages à forte valeur. Ils ont ainsi ciblé l'ivoire des éléphants, la corne des rhinocéros, les pangolins et le bois rose. La raison pour laquelle nous avons une si forte augmentation des organisations criminelles est qu'ils recrutent et emploient des personnes locales et corrompent les autorités officielles. C'est du braconnage à une échelle quasi industrielle. Maintenant, la réponse à apporter est que nous ne devons pas nous cantonner à une action au niveau des agences responsables de la vie sauvage, mais nous avons besoin de la police, des douanes, de tous ceux qui s'occupent du crime organisé. Nous commençons à avoir un impact car nous traitons le trafic comme un vrai crime pour qu'il devienne une activité à faible profit et à haut risque.
Quels sont les moyens pour surveiller ce trafic illégal ?
Pour combattre ce trafic, nous avons besoin de travailler sur toute la filière du commerce illégal, depuis les pays sources, en passant par les pays de transit jusqu'aux pays de destination. Cela veut dire s'occuper de la demande et comprendre ce que les acheteurs veulent et d'où ils viennent.
Comme vous l'avez souligné, en fait, le trafic illégal n'est pas une affaire purement africaine, c'est aussi une affaire internationale. Est-ce qu'il vous semble que tous les pays sont concernés et agissent de façon suffisamment efficace pour lutter contre ce trafic ?
Oui, le rapport du World Wildlife sur la vie sauvage dans le monde, publié cette année, montre que le commerce illégal concerne 7000 espèces. Ce chiffre provient de plus de 164 000 procès-verbaux qui viennent de 120 pays et qui montrent qu'il y a plus de 80 pays associés à ce commerce illégal. C'est un problème global et ce qu'il y a de bien, c'est que nous conjuguons nos efforts pour combattre ce commerce sous l'égide de la CITES, notamment en croisant les données des différents pays. Nous pouvons et nous devons faire plus. La collaboration entre les États ne cesse de progresser depuis 5 ans. Par exemple, nous avons l'opération Cobra 3 à travers 4 continents et 62 pays, qui tous travaillent ensemble pour combattre les crimes envers la vie sauvage.
Est-ce que les nouvelles technologies peuvent vous aider ?
Il faut avant tout bien former et bien payer les gardes et tous ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi. Il y a en outre encore des progrès à faire dans le déploiement de nouvelles technologies. C'est une vraie révolution qui est en train de se passer. C'est par exemple la possibilité de connaître la provenance et l'âge de l'ivoire à travers son analyse ADN. Il n'est plus possible de mentir en disant « j'ai eu cet ivoire avant la convention quand c'était légal ». Non, ça n'est plus possible. Vous prenez juste un échantillon et vous pouvez dire « ok, c'était en 2012, issu d'une réserve de Tanzanie ». D'autres évolutions concernent la surveillance depuis le ciel avec des drones ou depuis le sol à travers différentes technologies. Il y a la surveillance d'Internet pour pister le cybercrime. On est en train de changer les règles du jeu avec ce développement technologique.
Ce sont également les nouvelles technologies qui ont permis de réaliser une évaluation sans précédent sur l'éléphant d'Afrique dont le déclin s'accélère. Financée par le cofondateur de Microsoft et mécène Paul Allen, l'étude a coûté 7 millions de dollars et mobilisé une centaine de scientifiques et plusieurs ONG.
Depuis 2 ans et demi, nous avons réalisé un partenariat avec 8 ONG de 18 pays et nous avons utilisé 200 avions qui ont totalisé une distance de vol supérieure à celle de la Terre à la Lune afin de compter les éléphants et prendre les bonnes décisions sur la conservation et informer les décideurs politiques.
Quelles sont les principales conclusions de l'étude ?
La première conclusion est que la population des éléphants de savane en Afrique a décliné de 30% depuis les 7 dernières années. Cela veut dire que dans 10 ans, il y aura la moitié du nombre actuel d'éléphants si la tendance se confirme. Quelqu'un doit faire quelque chose maintenant si on veut que les éléphants survivent.
Y a-t-il des pays qui sont plus touchés que les autres ?
Ce que montre l'étude, c'est qu'il y a de grandes différences sur les façons dont les pays parviennent à protéger les éléphants et les moyens qu'ils y mettent. Certains pays, comme en Afrique de l'Ouest, pays où il reste assez peu d'éléphants, font un super boulot pour les protéger. D'autres pays comme la Tanzanie, le Mozambique et l'Angola ont connu un déclin catastrophique de leur population d'éléphants. Donc ces comparaisons sont vraiment importantes pour mettre la pression sur les pays qui ne font pas assez et aussi pour montrer à tout le monde ce qui marche pour sauver les éléphants. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent pourquoi les éléphants se portent mieux dans un endroit plutôt qu'un autre. Mais une chose saute aux yeux quand on regarde les données. Il y a une relation claire entre les pays qui sont mieux gouvernés, qui sont plus démocratiques, et les autres. Leurs éléphants se portent mieux que dans des pays qui sont plus corrompus. Par exemple, le Botswana est extrêmement bien gouverné. Il réussit mieux que n'importe quel autre pays en Afrique. Presque la moitié des éléphants sont au Botswana. En Afrique centrale, où vivent les éléphants de forêt, le pays qui fait le meilleur travail est le Gabon, qui est également l'un des pays les plus démocratiques de l'Afrique. C'est donc un facteur évident.
Beginning. furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hair. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Les États-Unis sont très impliqués dans la lutte contre les réseaux de braconnage et de commerce illégal, en particulier l'ivoire. En juin dernier, l'État fédéral a ainsi interdit quasiment totalement le commerce de l'ivoire sur son territoire. Sally Joel entend faire davantage en accompagnant les pays africains dans cette lutte.
J'ai été dans trois pays en Afrique, plus spécifiquement pour m'occuper du trafic, au Gabon, au Kenya et en Afrique du Sud. Ils travaillent tous trois très dur sur cette question, mais nous pouvons les aider. Nous avons des délégués qui peuvent apporter leurs compétences pour faire respecter la loi, des technologies pour remonter les réseaux jusqu'à la tête et les amener devant la justice. Il ne faut pas s'intéresser qu'aux braconneurs. Il faut savoir d'où vient l'ivoire. Nous avons des laboratoires de police scientifique et nous pouvons aussi former les scientifiques de ces pays afin qu'ils puissent faire les analyses eux-mêmes. Nous devons travailler ensemble et apprendre les uns des autres et partager les informations les uns avec les autres.
Le développement des activités minières et pétrolières, parfois sur le territoire même des parcs nationaux, met aussi à mal la biodiversité en Afrique. C'est notamment le cas du Ghana, Daryl Bossou, directeur adjoint du bureau ghanéen de l'ONG internationale Arocha.
Dans les deux dernières décennies, nous avons connu une déforestation et une dégradation de nos ressources naturelles sans précédent. La responsabilité en revient aux coupes illégales de bois, mais aussi aux activités minières, à la corruption et à la faible application des nombreuses lois qui visent à protéger les ressources naturelles, car elles fournissent notamment des services à l'environnement. La solution pour faire face à ces défis environnementaux pour les Ghanéens est très claire. Une des clés est de faire comme de nombreux pays, c'est-à-dire de s'assurer que les nombreuses lois qui sont inscrites sur le papier soient mises en application correctement. Et nous avons aussi besoin d'un fort leadership pour mener à bien ce changement, pour mener à bien les actions pour lutter contre la dégradation de la forêt, la pollution environnementale et que les trafiquants des ressources naturelles vivantes soient arrêtés. Le leadership est un point clé, le respect des lois en est un autre.
Est-ce que vous avez le sentiment que finalement les lois existent au Ghana, mais qu'elles sont sur le papier et qu'elles ne s'appliquent pas réellement ?
Oui. Je crois que dans le secteur de la conservation, le Ghana est considéré comme l'un des pays qui s'est doté de nombreuses très bonnes lois. Mais nous avons un autre record qui est celui du non-respect des lois. Par exemple, au Ghana, il y a certaines réserves forestières, c'est-à-dire qu'elles sont protégées de toute activité d'extraction de bois et de minerais. C'est très clair dans la loi. Mais si vous allez au Ghana, vous verrez plusieurs réserves qui sont mises à mal par des activités en principe interdites. Alors, je dirais oui, nous avons beaucoup de très belles lois, mais notre principal défi est de les respecter.
Le gouvernement autorise des concessions minières en contrevenant à la loi ?
Ils donnent des concessions aux compagnies minières dans les endroits supposés protégés. Et je vois les entreprises exploiter le sous-sol. Certaines agences leur ont peut-être donné des permis. Et ces agences sont différentes des agences gouvernementales. Alors qui pourrait vraiment blâmer le gouvernement ? Et aussi l'autre chose dont je voudrais parler, c'est le problème des savanes. On y trouve l'exploitation illégale de bois de rose à destination des marchés asiatiques. Le gouvernement a permis son exploitation alors qu'elle est interdite dans de nombreux endroits.
L'air protégé est le principal outil de conservation en Afrique. est-ce cependant efficace? Réponse de Omer Ntougou, secrétaire exécutif du réseau des aires protégées d'Afrique centrale.
Alors, de notre point de vue, il y a effectivement un décalage entre les annonces de nos chefs d'État, les annonces politiques et la réalité que nous vivons sur le terrain. Les aires protégées dans tous les pays d'Afrique centrale ont été créées par les États de façon souveraine, parfois pour répondre à des obligations internationales qui sont allées signer et ratifier des conventions. Maintenant, ils doivent mettre dans chaque pays 10% de leur territoire en réserve. Certes, aujourd'hui, 60 à 70% des aires protégées sont non fonctionnelles. C'est-à-dire que c'est ce qu'en anglais on appelle des paper parks. C'est des aires protégées sur le papier. On vous présente une carte de l'ensemble du réseau d'aires protégées. Vous dites, ah oui, cette zone est protégée. Mais quand vous allez sur le terrain, il n'y a rien. Pas de personnel, pas de financement, pas même des délimitations précises. Et puis, l'air protégé est complètement saccagé. Il y a des aires protégées emblématiques qui ont des financements importants, généralement, qui viennent de la communauté internationale qui appuie beaucoup le secteur de la conservation en Afrique centrale. Mais nous attendons encore de nos États des décisions de financement qui soient beaucoup plus importantes parce que les personnels sont payés par les gouvernements. Parce que les aires protégées appartiennent au gouvernement et les gouvernements, la plupart des gouvernements rechignent à donner en gestion ou en concession des aires protégées au secteur privé.
Alors, est-ce que véritablement l'outil qu'est l'air protégé est adapté?
Ce n'est pas possible en Afrique centrale, dans un continent, dans une région sous-développée, avec toutes les pressions que l'on a aujourd'hui, avec les défis de développement que les États ont, avec les niveaux de pauvreté, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons, ce n'est pas possible d'avoir 174 aires protégées. Ce n'est pas possible. Les terres sont des terres de compétition aujourd'hui. Il faut que les États concentrent leurs efforts sur des zones protégées maximales. Je continue à dire que je suis le patron du réseau des aires protégées. Je continue à dire que donc l'air protégé, c'est l'outil de conservation par excellence. Cependant, on ne peut pas dans un pays avoir 60 à 70% des aires protégées qui ne sont pas fonctionnelles. Ça veut dire qu'elles ne servent pas comme outil de conservation. Peut-être faut-il, dans chaque pays, prendre une décision cardinale, souveraine, sur la façon de regrouper les aires protégées en de grands ensembles, 4, 5, maximum 6 à 7 ou 10 aires protégées par pays au maximum, et investir véritablement sur ces aires protégées. Alors, je peux prendre des exemples dans ce sens-là. Le Rwanda n'a que 3 aires protégées qui fonctionnent parfaitement au niveau de la conservation et au niveau du tourisme. La RDC, le Cameroun et le Gabon ont, chacun de ces pays, plus d'une quinzaine d'aires protégées. Eh bien, dans chacun de ces pays, il y a des aires protégées au minimum 30 à 40%. Quand je suis un peu gentil, qui ne fonctionne pas du tout. Nous sommes bien conscients qu'il n'est pas possible de développer l'Afrique centrale sans puiser dans les ressources, c'est pratiquement impossible. Mais il faut que l'on comprenne que ce développement est consommateur de ressources. Donc réservons des ressources à la consommation, mais réservons des ressources également pour la conservation, mais faisons-le de façon, j'ai envie de dire, rationnel, quoi, voyez-vous.
Les États-Unis sont très impliqués dans la lutte contre les réseaux de braconnage et de commerce illégal, en particulier d'ivoire. En juin dernier, l'État fédéral a ainsi interdit quasiment totalement le commerce de l'ivoire sur son territoire. Sally Joel, secrétaire à l'intérieur des États-Unis, entend faire davantage en accompagnant les pays africains dans cette lutte.
Nous perdons beaucoup d'espèces à une vitesse très rapide qui pourrait conduire à la 6e extinction massive. Nous poussons ainsi notre planète dans ces derniers retranchements. Et cette rapidité à laquelle ce phénomène se produit est terrifiante. Revenir en arrière est sans doute impossible, mais nous savons aussi que la conservation fonctionne. Ce n'est pas sans espoir. Il y a donc un urgent besoin d'action, et l'action doit se faire maintenant. Parce que lorsqu'une espèce a disparu, elle a disparu définitivement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et lorsque l'on perd des espèces à un tel rythme, nous devons comprendre que nous sommes dans un état d'urgence. Mais je ne veux pas vous laisser sur une note négative, parce que nous savons que la conservation des espèces, ça marche. Comme quand nous investissons, comme la Chine l'a fait avec le panda, ou comme nous l'avons vu pour d'autres espèces. On n'investit pas seulement dans des espèces, nous investissons dans un écosystème entier. Ainsi, toutes les espèces reviennent, de la limace à l'escargot, en passant par le papillon, ce qui nous permet de créer de la résilience. Ici, à ce congrès, nous sommes 10 000 personnes qui en représentent des millions, parmi lesquels des jeunes, qui peuvent estimer que ce que nous avons fait est inexcusable. Dans une telle situation d'urgence, nous devons intensifier nos actions. Je suis confiante et nous pouvons le faire.
Autre écosystème tout aussi important à préserver, les coraux. Demain, nous vous emmènerons à bord de Tara, la goélette scientifique qui continue justement son exploration des coraux dans le Pacifique. Et nous verrons comment notre alimentation va évoluer dans les décennies qui viennent. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve demain, même planète, même heure.